Jules-Marie, le boucher de Meudon. Première partie, la meule de paille du chant l'oiseau. La veille au soir, la journée finie, le fermier maduré du bas Meudon avait dit à ses ouvriers, « Demain matin, avant toute autre besogne, vous irez à Meudon, vous chargerez la meule de paille du chant l'oiseau et vous la remiserez. » Et le lendemain, à 5 heures, une longue charrette attelée de 2 chevaux sortait de la ferme et montait vers le village, gagnant la rue des Princes. Le chant l'oiseau est situé en face des coteaux boisés de Clamart, à 2 pas du chemin qui conduit à Villebon et tout près de l'étang du Haras. Il dépend de Clamart. La fin d'août approchait. Il avait fait pendant tout l'été une chaleur suffocante. Ce jour-là encore, un splendide soleil éclairait la forêt feuillue où couraient dans de hautes cimes des chênes et des ormes le léger frisson du matin. Le village était réveillé. Les coqs sonnaient depuis longtemps leur éclatante fanfare. Des chiens aboyaient en folâtrant. Mais les rues remuaient comme agitées par une fièvre de travail. Des couples matineux s'en allaient au bois, bras dessous, respirer les senteurs fraîches des feuilles où perlaient et scintillaient, dans les échappées des branches, les gouttes de rosée. Il y avait, sous les ramures, un incessant gazouillis de petits oiseaux et dans les fleurs des jardinets, un long et monotone bourdonnement d'abeilles. Tout le long du champ l'oiseau, des papillons bruns, blancs, jaunes, quelques-uns nuancés des plus riches couleurs, voletaient et se bataillaient. La charrette du fermier maduré portait 3 ouvriers et 2 femmes. Elle s'arrêta dans la rue, devant la barrière qui fermait le champ. Auprès de cette barrière, il y avait une petite maison basse, à un seul étage, dont la devanture était peinte en rouge brique. Les fenêtres sur la rue étaient remplacées par des grillages en fer, derrière lesquels pendaient des quartiers de bœufs, de veaux, de moutons, accrochés aux poutres du plafond. Entre le rez-de-chaussée et l'étage, la devanture faisait éclater, en énormes lettres jaunes enguirlandées, cette enseigne « Boucherie Loriot ». Sur le seuil, une grande femme se tenait, un balai à la main. Maigre et osseuse, elle avait le visage ridé comme une vieille pomme de rainette, les yeux petits, ronds et brillants. C'était une physionomie curieuse au possible, un de ces visages, comme a dit un poète, sur lesquels la marée des passions monte et s'abaisse 10 fois par jour. Elle avait près de 60 ans, mais l'âge n'avait pas eu de prise sur ses nerfs et ses muscles. Elle était restée robuste et ses grandes mains sèches et nerveuses aidaient souvent le boucher Loriot, son fils, dans les lourds travaux de son métier. Gueudel, un des ouvriers de la ferme Maduré, lui cria en ouvrant la barrière « Bonjour, Mère Loriot, ça va-t-il comme vous voulez ce matin ?»« Oui, et où allez-vous donc si tôt ?»« Chargez la meule du chant l'oiseau, le patron a besoin de paille. » La charrette passa la barrière et descendit le pré. La vieille, appuyée sur le manche de son balai, regarda les ouvriers disparaître, barrant l'entrée de la boucherie sans qu'elle s'en aperçût, à des clients qui venaient chercher leurs provisions de la journée. Dans le creux de la vallée, les ouvriers de la ferme s'étaient mis à la besogne. Les 2 femmes étaient restées sur la charrette, pendant que les garçons découvraient la meule et leur jetaient des herbes à bout de fourche. Et au fur et à mesure que les gerbes tombaient dans la voiture, les femmes les empilaient avec symétrie. Cela se faisait rapidement, mais le travail était assaisonné de bouts de chansonnettes, de plaisanteries ou d'éclats de rire. Souvent les bottes tombaient dru sur la tête des femmes, qui parfois se mettaient à rire ou parfois se fâchaient. C'était une grosse gaieté franche, tout en dehors, sans arrière-pensée, avec un épanouissement heureux de vivre. Sur la route des Princes, qui conduit à Villebon, Des petites voitures basses passèrent, menant au bois les habitants des villas éparses dans Meudon. Et dans le lointain, sur le coteau de Clamart, s'élevait du milieu des arbres une voix pleine et sonore, chantant à tue-tête je ne sais quelle chanson populaire de la vieille. « Je vais aux eaux avec Zaza !» Et les ouvriers reprenaient haleine. Deux d'entre eux étaient descendus. Des gerbes avaient dégringolé et d'en bas ils les lançaient aux femmes, perchées maintenant très haut sur l'entassement de la charrette. La meule où restait Guedet s'était abaissée peu à peu et se trouvait à 1 mètre ou 2 du sol. « Eh, les flâneurs !» dit Guedet. « Faudrait pourtant en finir avec cette paille !» Sa fourche s'enfonça dans une gerbe. Quand il la retira, il poussa un grand cri, fit 3 pas en arrière et, perdant pied, roula comme une masse sous les jambes des chevaux. Les autres se précipitèrent pour le relever. « Qu'est-ce qui te prend ? » disait-il. Et lui, épouvanté, pâle comme un mort, et les lèvres sèches, montrait du doigt la meule en faisant de vains efforts pour parler. À la fin pourtant, « Là, là !» bégaya-t-il d'une voix étranglée, « Là, enterré sous la paille, le cadavre d'une femme !» Du haut de la voiture, les ouvrières qui s'étaient penchées criaient, « Oh oui, c'est le corps d'une femme, on voit la jambe !» Les ouvriers montèrent sur la meule avec Guedet qui s'était remis. La jambe passait jusqu'à mi-cuisse, en dehors des gerbes. Le bas blanc, souillé de boue et de taches vertes, descendait sur la cheville, ayant perdu sa jarretière, et le pied menu, étroit comme la main, n'avait plus de chaussures. La peau, d'une blancheur de marbre, était striée de longues estafilades, et déchiré au vif sur le genou. C'était tout ce qu'on voyait. Il y eut un moment d'hésitation. Les ouvriers se regardaient avec crainte. Mais cela ne fut pas long. Guedet se baissa, ramassa avec précaution une brassée de paille déchiquetée, et la jeta au bas de la meule. Alors le cadavre apparut, étendu, les bras au long des reins. Guedet le considérait, la bouche entrouverte, haletant, le cœur serré. « Mais c'est Charlotte !» dit-il épouvanté en se baissant pour mieux voir. « C'est Charlotte, la petite caissière de la boucherie Loriot !» Le visage était déchiré d'égratignures sanglantes. Le côté gauche de la tête était ouvert par une large plaie dont le sang avait coagulé tous les cheveux. Ceux-ci, très longs, très blonds, sans houlette autour du cou, dénoués et maculés de terre en un inextricable fouillis. Les yeux tuméfiés sortaient de l'orbite, et les lèvres, largement ouvertes, laissaient apercevoir de petites dents serrées, blanches comme la pulpe d'une amande. Autant qu'on en pouvait juger, celle que Guedet appelait la petite Charlotte avait dû être très belle. On le devinait aux masses lourdes de sa chevelure, à la régularité de ses traits, à la finesse de sa taille, à la rondeur de sa gorge, à l'élégance de ses pieds, de ses mains. Elle portait une robe de cotonnade bleue, avec un pardessus gris-marron, dont presque tous les boutons manquaient. Le bas de la robe était déchiré. Le pied gauche seulement était chaussé d'un soulier lacé. « Il faut aller chercher le commissaire, » dit Guedel, « et sans perdre une minute. » Une des paysannes que sa taille maigre et flanquée avait fait surnommer la Fine s'élança vers Meudon. Guedel la rappela, « Hé, la Fine, en passant devant la boucherie, prenez donc le grand Loriol ou sa mère, ça les regarde cette affaire-là. » puisque Charlotte était employée chez eux. La Fine partit. Elle traversa le champ Loiseau, passa la barrière de clôture, entra dans la boucherie. La boutique était déserte. Eh, mère Loriot, cria la paysanne, eh, monsieur Loriot, y êtes-vous? Elle attendit, écouta. Une voix faible partit d'un cabinet attenant à la boutique. Elle disait, « Par ici, s'il vous plaît, ma mère est sans doute dans le village et mon frère occupé à son abattoir. » La fine pénétra dans le cabinet. Une jeune fille, malingre et souffreteuse, une enfant plutôt, car bien qu'elle eût 18 ans, elle paraissait en avoir 10 à peine, était couchée dans un lit. C'était un de ces êtres déshérités par la nature, dont le rachitisme a tordu le corps et paralysé les membres. Sa petite tête, éclairée par de grands yeux doux, une tête où rayonnait une intelligence vive, comme si Dieu avait voulu lui faire oublier par là les difformités de son corps, était enfermée dans de hautes épaules difformées. Le teint était brun, les cheveux d'un noir bleu, les lèvres comme bleuies par le froid. Étrange bizarrerie de la nature. La petite rachitique avait des bras superbes, ronds, potelés, avec une fossette terminée par des mains aux doigts fuselés, recourbés à la pointe, une main adorable, invitant au baiser. « Ah, c'est vous, Nabote !» dit la fine. Elle s'appelait Denise Loriot, mais on la surnommait Nabote à cause de sa difformité. « Oh, si vous venez pour de la viande, » dit l'infirme, « attendez un peu et asseyez-vous. Ma mère va revenir sans doute, ou mon frère. »« Non, non, je n'ai besoin de rien. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. »« Ah, bien oui, il s'agit d'autre chose. »« Vous savez, Charlotte, votre petite caissière, celle que sa tante envoyait tous les jours chez vous pour lui faire respirer l'odeur de la viande, à cause de sa santé. » « Ah oui, elle devrait être ici, » interrompit Denise. « Il est 8 heures passées. D'habitude, elle arrive à 8 heures. »« Oh, vous l'attendrez longtemps. » La fine allait continuer, mais tout à coup, elle s'arrêta avec un cri. « Ah !» dit-elle, reculant. Sur le seuil venait d'apparaître un grand et robuste garçon aux larges épaules, au cou de taureau, dont la figure pleine et rouge était éclairée par des yeux bleus à fleur de tête. Sa chemise de grosse toile était relevée jusqu'au coude sur des bras musculeux, poilus, tachés de sang. Et la main droite tenait un couteau rouge de sang jusqu'à la poignée. C'était le grand Loriol, le boucher. Il répondit par un éclat de rire au cri poussé par la paysanne. « Bon, la fine, dit-il. Voilà que je vous fais peur à présent. Si vous n'aviez pas de boucher, qu'est-ce qui vous ferait manger de la viande, hein, grande bêtasse ?» Il essuya sur son tablier blanc le couteau qui laissa une marque sanglante, s'approcha du lit de Denise. « Bonjour, flâneuse, alors on se lève pas ce matin ?» Et se penchant sur l'enfant qui avait une sorte de sourire contraint, il l'embrassa, pleine bouche, de toutes ses forces, avec une gaieté attendrie. « Qu'est-ce que vous désirez, la fine ?» demanda-t-il. « Du filet, du faux filet, d'entrecôte ? Oh, j'ai du gigot que je vous recommande. Tenez, regardez-moi ça, c'est-y appétissant. Avec des haricots bretons autour, ça serait rudement fameux. À propos, est-ce que le fermier Baduret ne mange plus de viande ?» « Il y a bien 8 jours que je ne vous ai pas vu à la maison. »«
Je l'ai dit à Nabote, c'est pas pour acheter que je suis venu. »«
Ah, pourquoi donc alors ? Mais vous paraissez tout ému, tout drôle. »« Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Un peu plus tôt, un peu plus tard, vous l'apprendrez, n'est-ce pas ? Autant que je vous le dise tout de suite. »«
Mais dites, la fine. »«
Eh bien, tout à l'heure, en changeant la meule de paille et du champ l'oiseau, que vous apercevez d'ici. Nous avons trouvé... »
La paysanne s'arrêta de nouveau. Inquiet, pris d'un malaise, Loriot s'essuya les mains à son tablier, posa les poings sur les hanches et s'approcha, tendant le cou. « Voyons la fine, dit-il.
Bien, nous avons trouvé un cadavre, monsieur Loriot. Un cadavre de femme... de jeunes femmes.
La figure du boucher, d'ordinaire rouge du front jusqu'au menton, était devenue pâle. Un lourd silence s'était fait tout à coup, et l'on entendit très bien un profond soupir qui parlait du lit où Denise était couchée. « Oh !» dit le boucher, « un assassinat près de ma maison, je n'ai rien vu, rien entendu. On n'a pas crié, bien sûr, car je ne dors que d'un œil, comme les chiens. Je serais sorti, et vous savez, c'est pas 10 hommes qui me font peur. C'est une femme que vous dites, la fine, est-ce qu'on l'a reconnue au moins ?»«
C'est Charlotte, votre caissière. »
Loriot n'eut pas l'air d'avoir compris. Il regarda la fine avec étonnement, mais il balbutia. « Charlotte assassinée, mais quelle blague !»
Guedel l'a reconnue, et tout le monde.
Blanc comme un linge, avec des tremblements, comme si un froid mortel avait saisi tous ses membres, Loriot, hébété, répétait « Charlotte, allons donc !» Il passa la main sur son front et ses yeux. Il se sentait devenir faible. Et tout à coup, il eut un cri terrible, une sorte de menace folle. « Oh, je veux voir, je veux voir, je veux voir !» Et brutalement, écartant la fine, il se précipita dans la rue, ne songeant même pas qu'il conservait à la main son couteau de boucher à large lame, à poignée de bois rouge. Immobile dans son lit, les traits contractés, les yeux brillants, Denise Loriot laissa partir son frère sans dire un mot, sans faire un geste. On eût juré qu'elle n'avait pas compris. « Ma foi, dit la fine, haussant les épaules, ces choses-là ne me regardent pas. Je vais toujours aller prévenir le commissaire. » Et elle aussi sortit. Il ne resta plus dans la boucherie que Nabot, dont le regard fixé sur la muraille en face d'elle, avec une étrange ténacité, semblait vouloir suivre son frère et deviner ce qui se passait dans le champ l'oiseau. Le grand Loriot avait franchi la barrière et courait comme un insensé. Bien que la meule fût à quelques mètres, il ne distinguait pas très bien. Il avait un brouillard devant les yeux. Il allait, bouleversé, trébuchant au mode de terre surélevé par les taupes, glissant sur des touffes d'herbes humides de rosée, bégayant des phrases entrecoupées de hoquets. Mais il approchait. Maintenant, il voyait la charrette pleine de paille, et les ouvriers qui le regardaient venir. Il s'arrêta, eut un rire convulsif et murmura « Allons donc tout ça, c'est de la blague que je dis. Bon, ils savent que je suis amoureux de Charlotte, ils ont voulu me jouer une farce. » Il était arrivé, les autres se taisaient dans un recueillement religieux. Alors le tremblement le reprit. Il dit avec épouvante « Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a ?» Du doigt, sans prononcer un mot, Guedel lui désigna le cadavre. Loriot, affolé, n'osait suivre la direction du geste. « Je ne vois rien, je ne vois rien !» Puis, invinciblement, sans qu'il pût résister, son regard rencontra la partie de la meule où la robe de Charlotte mettait une grande tache bleue sur le jaune de la paille. Il eut un gémissement, se raidit, marcha droit, les dents serrées vers le cadavre. Oh « Oui, mais c'est elle !» Alors il se haussa et enleva le corps dans ses bras. « Loriot, dit Guedel, faut rien déranger à cause de la police. » Mais le boucher n'avait pas entendu. Il s'était assis sur la terre. Il avait ramené ses bras toujours nus et la chemise relevée autour des épaules de Charlotte, la serrée contre sa poitrine de toutes ses forces, et le visage, touchant presque la tête ensanglantée de la jeune fille, la contemplait avec une douleur farouche. À 2 reprises, pourtant, il promena sur les gens qui l'entouraient un regard où il y avait de la folie. Une fois, il dit à voix basse, hochant la tête, cette phrase atroce,
Il en saignait comme un mouton.
À présent, sa main gauche soutenait le cadavre. De la main droite, il caressait le visage et les cheveux de la morte, souillés de boue. Ses doigts s'appuyèrent sur l'horrible plaie, y restèrent quelques secondes et doucement, il murmura comme une mère à sa fille « Est-ce que je te fais mal, Charlotte ?» Quelques minutes après, on vit arriver deux hommes suivis de Jeanlune. Déjà dans tout Meudon, le bruit s'était répandu qu'un assassinat avait été commis. Des gens accouraient, friands d'émotions fortes, et essayaient de franchir la barrière, mais des agents attachés au commissariat les retenaient. Les hommes qui accompagnaient la fille étaient M. Consola, le commissaire de police de Meudon et le docteur Valot. M. Consola était âgé d'une trentaine d'années, petit, maigre, chétif, soigné dans sa tenue. Il avait les yeux de ce gris brillant dont l'éclat est parfois insoutenable. Ses cheveux châtains, coupés très courts et en brosse, faisaient cinq pointes régulières sur un front blanc dont la carrure trahissait plus d'énergie peut-être dans le caractère que de vivacité dans l'intelligence. La moustache se reliait aux favoris et le menton était soigneusement rasé. Le docteur Valot était un gros homme, rond de manière, très fin sous une apparence de bonhomie, haute en couleur, l'œil réjoui, les lèvres bonnes. C'était un gai compagnon auquel, par une bizarrerie du hasard, revenaient toutes les affaires lugubres de suicide, d'accident ou de crime qui se passaient dans le ressort du commissariat. Quand ils furent auprès de la meule, les ouvriers se levèrent. Consola demanda d'un ton bref « Qui a découvert le corps ?»« C'est moi, » dit Guedet. Et sans attendre que l'on l'en pria, il raconta ce qui s'était passé. Consola prenait des notes. Lorsque Guedet eut fini, « Où est le cadavre? Où l'avez-vous trouvé? Oh, mais pourquoi l'a-t-on changé de position ?»« Excusez, » dit Guedet, « mais ce n'est pas notre faute. Loriot est arrivé, il l'a pris dans ses bras, il était comme fou. Faut vous dire que depuis un an, le bruit avait couru à plusieurs reprises, qu'il allait épouser Charlotte. Finalement, il ne se mariait jamais. » Sait-on la raison de ce retard? On a raconté bien des choses, par exemple, que la petite était coquette et que lui faisait endurer mille maux. Ah, il était jaloux. Oh, ça oui. À ma connaissance, il s'est battu cinq ou six fois avec des garçons qui faisaient de l'œil à Charlotte. Consola venait de passer derrière la meule et apercevait Loriot berçant dans ses bras le cadavre de sa fiancée, comme s'il n'eût pas cru à sa mort et qu'il eût voulu l'endormir. Le boucher n'entendit pas le commissaire de police qui lui disait « Levez-vous !» Alors Consola lui frappa sur l'épaule. Le grand garçon se retourna, murmura quelques paroles, mais ne bougea pas. Consola n'était pas patient. Il se pencha, prit les mains de Loriot, et les détacha brusquement. Celui-ci eut une sorte de grondement, et sa main se leva armée du couteau. Les yeux gris du commissaire de police étincelaient, et son front s'était plissé d'une ride méchante. Mais Loriot laissa retomber le bras, baissa la tête, et s'étendit de tout son long sur le sol avec un gémissement étouffé. Sur l'ordre de Consola, les ouvriers replacèrent le cadavre où ils l'avaient trouvé, puis s'éloignèrent, laissant le commissaire et le médecin seuls auprès de la morte. « Avant de me livrer à un examen plus approfondi, » fit le docteur Valot à voix basse, et sans même autrement visiter le cadavre, « je puis vous dire que cette jeune fille a été assassinée d'un coup de bûche ou de bâton. » Il se pencha sur Charlotte, écarta les cheveux coagulés et désigna la plaie. Dans la partie occipitale gauche, continua-t-il, le crâne présente la trace d'un coup violent porté avec un instrument contondant
et qui a été mortel. Le crâne est brisé, un éclat de bois est resté dans la plaie. L'instrument qui a servi à donner la mort doit être une bûche ou bien un bâton qui se serait brisé. Il examina les mains. Ne porte aucune trace de confusion, dit-il. Il n'y a donc pas une résistance. Et ces égratignures qui montent du bas de la jambe jusqu'au milieu de la cuisse, nous semblent-elles pas les indices d'une lutte ? Le médecin secoua la tête. On pourrait le croire au premier abord, dit-il, mais il suffit d'un examen plus sérieux pour s'assurer du contraire. Remarquez dans quel état particulier de désordre et de saleté sont les vêtements de la victime. Mais en effet, ils sont déchirés en lambeaux, salis de boue. Les jambes, la robe, le par-dessus sont couverts de taches vertes. Les cheveux sont pleins de terre et l'herbe. Il y a des épines et des bouts de branchettes mortes encore attachés aux déchirures de la peau. Ils restèrent un moment silencieux. « Il est clair, fit Consola, que cette jeune fille n'a pas été assassinée ici. On l'a portée, puis on l'a traînée par les pieds, par les bras, par la tête, jusqu'à la meule, à travers le champ l'oiseau. Ces taches vertes sont celles du pré. Cette terre est celle d'un jardin, sans doute. Ces épines, celles des haies et des buissons. » Il s'arrêta, puis demanda. « À quel moment remonte le meurtre ?»« Il a dû être commis hier, entre 8 et 10 heures du soir. »« Vous en êtes sûr ?»« Ah oui, je l'affirme. » »« Alors, les traces de la traînée dans les herbes et dans les broussailles doivent exister encore aux environs. »« La piste est facile à trouver. »« Où allez-vous faire transporter le cadavre ?»« Chez le boucher Loriot, provisoirement. » « Vous y ferez votre rapport, moi. Pendant ce temps-là, je commencerai mon enquête. » Les agents venaient d'apporter un brancard sur lequel ils placèrent le cadavre. Déjà, ils s'éloignaient chargés du fardeau, lorsque tout à coup, Loriot s'élança d'un bond sur eux, les prit par les épaules et rejeta 10 pas d'un seul effort, avec une force incroyable, et se précipita, les bras tendus sur Charlotte. Les agents, surpris, dégainaient. « Oh, laissez cet homme !» fit le commissaire d'un ton singulier, pendant que son regard ne perdait pas un des mouvements de Loriot. Celui-ci bégayait. « Mais pourquoi veut-on l'enlever ? Où l'amène-t-on ? Je veux pas qu'on l'éloigne de moi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, puisqu'elle est morte ?» Il ne pleurait pas. Seulement des sanglots pénibles soulevaient sa poitrine et coupaient ses paroles. Sa figure était décomposée. Son gros cou, dont la peau faisait des bourrelets sur le col rabattu de la chemise, était strié de raies sanglantes. Il s'était déchiré de ses ongles en se roulant sur la terre. Une rougeur apoplectique lui couvrait le visage et injectait ses yeux. Il avait le regard d'un fou. Il s'était mis à genoux auprès du brancard et de ses bras protégeait le cadavre. « Loriol, soyez raisonnable, » dit le docteur. Et Consola s'approchait. « Mais non seulement nous ne voulons pas vous séparer d'elle, mais c'est justement chez vous que je la fais transporter, » dit-il. « Ah !» fit Loriol, abîmé par un effroyant désespoir. « Alors, sans dire un mot, il prit le corps et à grandes enjambées marcha dans la direction de la boucherie. « Quel muscle !» murmura un agent. « Oh, il est fort comme un cheval !» dit l'autre. C'était un lugubre et saisissant spectacle que celui de ce cadavre entre les bras de cet homme courant tête nue, les bras nus à un tablier blanc maculé de sang autour des jambes. Lorsqu'ils entrèrent dans la boucherie, la mère Loriot était assise sur une chaise de paille, immobile au fond de la boutique. Quand son fils parut, portant son fardeau sinistre, elle ne bougea pas, mais ses yeux s'étaient voilés et de grosses gouttes de sueur perlaient près des cheveux.
Loriot passa devant elle sans la regarder, alla déposer Charlotte dans l'arrière-boutique et tomba sur un escabeau anéanti. La mère se dirigea vers le cadavre, pâle, les traits tirés et la bouche contractée.
Oh oui, dit-elle, c'est Charlotte, mais qu'est-ce qu'il a assassiné?
Nabot, affaissée, les yeux fermés, dans le fauteuil où elle passait la moitié de sa vie, sur des oreillers blancs, semblait évanouie. Consola, prit le docteur à part, et d'un coup d'œil, montrant le boucher, la vieille et l'infirme. Mais savez-vous ce qui me frappe dans ces physionomies? Personne ne pleure. Mais le désespoir de Loriot, le comptez-vous pour rien?
Bon, comédie lugubre. Oui, ces gens sont sous le coup d'une épouvante affreuse, d'une angoisse horrible. Oh, je jurerais, docteur, que non seulement ils connaissaient le crime, mais qu'ils connaissent l'assassin.
Un pareil soupçon est bien grave, ne craignez-vous pas de vous tromper? Le commissaire de police hocha la tête.
Suivez-moi, dit-il, suivez-moi. Vous en jugerez bientôt.
Le docteur sortit le premier. Consola venait derrière. Sur le seuil de la porte, il s'arrêta et se retourna brusquement. L'éclair de son œil gris embrassa d'un seul coup Loriot, Denise et la vieille. Le premier gardait son attitude accablée, insensible à tout ce qui se passait. Nabot, en le voyant partir, n'avait pas retenu un soupir de soulagement, et la mère Loriot, les mains jointes et les doigts noués, le regardait en dessous. Mais au geste qu'il fit, les deux femmes baissèrent la tête. Consola eut un sourire ironique, s'approcha des agents et la bouche près de l'oreille leur dit « Ne perdez de vue ni la mère ni les enfants. »« Compris, » dirent-ils. Dans la rue, le docteur attendait. Consola le rejoignit. Ils traversèrent le champ, arrivèrent à la meule. La voiture était toujours là, demi-chargée. Les ouvriers n'étaient point partis. Ils causaient du crime à voix basse. Autour de la meule, la paille répandue couvrait le champ, empêchait de voir les traces qui pouvaient s'y trouver. « Il faudrait rateler la paille, » fit le commissaire. Les ouvriers obéirent avec empressement. En quelques secondes, la place fut nette. Les traces devenaient visibles. La terre était piétinée au-dessous de l'endroit où l'on avait enfoui le cadavre. Il y avait des marques de larges souliers ferrés qui se croisaient, s'entrecroisaient et se multipliaient à l'infini. On devinait là tous les efforts qu'avait fait l'assassin pour enlever le corps inerte dans les bras et le glisser sous la paille. Les pas s'éloignaient dans la direction des coteaux de Clamart. Mais la terre trop sèche et trop friable n'avait pas gardé les traces. Cependant, de temps à autre, il y avait comme une traînée de talons dans des touffes d'herbe. Ils avançaient en se guidant sur ces indices, bien certains de ne pas faire fausse route. Quand ils furent au pré, les recherches devinrent plus faciles. Le soleil n'avait pas desséché la rosée de la nuit, et le passage de l'assassin et de la victime se révélait par un sillon tourmenté et irrégulier qui avait laissé des zigzags dans l'humidité des herbes. Ils rencontrèrent un étroit sentier dont les caprices, les ressauts et les détours finirent par les amener à un ruisselet au fond duquel coulait un mince filet d'eau sous les feuilles sales et des plantes desséchées. Trois planches mal jointes reliaient les deux bourgs. Des broussailles s'étendaient le long du ruisseau sur un parcours d'une dizaine de mètres. Ils s'arrêtèrent. Comme l'assassin avait suivi le sentier, ils avaient perdu les traces et allaient maintenant à l'aventure. Mais leur indécision dura peu.
Consola s'était mise à genoux et sa tête frôlait presque les herbes qu'il fouillait d'un regard perçant. Auprès des broussailles, la prairie avait été également foulée. Les herbes étaient collées au sol, abattues par un fardeau lourd. Il n'y avait pas de rosée, mais le soleil, qui montait au-dessus du bois de Meudon, mettait sa lumière vive sur des taches sanglantes, prouvant que le cadavre avait dû séjourner en cet endroit. Et en effet, on distinguait la forme d'un corps, la place des deux pieds, celle des bras étendus en croix, celle de la tête qui avait laissé une mare de sang dans une touffe d'ortie poussée là, et très visible, comme si elles eussent été empreintes dans la cire, les traces profondes de deux genoux. « Le corps a séjourné ici, » dit Consola. « L'assassin s'est agenouillé auprès de lui. » Soit qu'il fût épuisé, soit qu'il voulût s'assurer une dernière fois que la mort était bien réelle. Le docteur fit un signe qui voulait dire bon, « c'est l'évidence même ». « Étonnez, » reprit le commissaire vivement, « examinez le buisson et le bord du ruisseau. » On avait jeté le cadavre dans le fourré épais. Des arbustes étaient effeuillés, des tiges cassées, des branchettes couvertes de sang. La première pensée du meurtrier a été de cacher le corps dans les broussailles. Mais il a reconnu sans doute que c'était impossible, car voici d'autres traces qui traversent le ruisseau et se dirigent vers le bois de Clamart. Il y avait en effet, de l'autre côté du pont, les marques d'une traînée sur un parcours d'une vingtaine de mètres, se perdant tout à coup à la rencontre d'un sentier qui gagnait le coteau directement. Un buisson d'églantier projetait ses branches épineuses sur le petit chemin qui l'encombrait. Le commissaire réprima un mouvement de joie. Accroché à l'une des branches, une large pièce de cotonnade bleue flottait doucement à la brise qui venait de se lever et qui passait en faisant frissonner les arbres. Et il dit laconiquement « Mais c'est l'étoffe de la robe de Charlotte. » 10 mètres plus loin, les traces se perdaient dans le bois. Le commissaire parut un moment dérouté. « Est-ce que je me serais trompé ?» murmura-t-il. En effet, si le cadavre arrivait de Clamart, les soupçons qu'il avait sur le boucher n'étaient plus fondés. Loriot n'était pas l'assassin. Il eut un moment d'hésitation. Le docteur l'avait laissé dans le chemin et s'était jeté en plein bois, au hasard des broussailles. Et tout à coup, le commissaire l'entendit crier « Hé, Consola, venez donc !» Il courut. Valot était assis sur une épaisse couche de mousse et tournait, retournait entre ses mains un soulier de femme. Il le tendit au jeune homme. « C'est le soulier de Charlotte, » fit celui-ci. « Et les traces s'arrêtent pour regagner la plaine, » dit le docteur. « Faisons comme elle, revenons sur nos pas. » Penché dans les buissons, à travers les arbres et les branches d'arbustes entrelacées, les yeux fixés sur les feuilles mortes, sur la mousse, attentif à tout ce qu'il voyait, silencieux comme des sauvages cherchant la piste d'un ennemi, ils reprirent le chemin de Meudon, guidé par le sang sur les touffes d'herbe. Autour des deux hommes essayant de démêler l'intrigue de ce lugubre drame, le paysage était gracieux, plein de la poésie un peu triste des bois. Une sorte d'intimité harmonieuse les entourait, faite du bruissement des feuilles sèches et des branchettes qu'ils écartaient en passant, du susurrement des sauterelles à la lisière, des cris des oiseaux en haut des arbres, le piaillement lointain des moineaux sur les haies et des chardonnerets sur les salades en graines se mêlait tout près d'eux au babil des fauvettes à tête grise qui murmuraient doucement des choses très sérieuses dans des fouillis de feuilles vertes. Le ronflement d'un train qui passait, venant de Paris, faisait une basse énorme à ce concert aérien. Au-dessus, des fils de la Vierge s'accrochaient en haut des broussailles, ainsi que de frêles escarpolettes tendues aux papillons. Par places, le soleil filtrant à travers les branches faisait pleuvoir sur la mousse des gouttes d'ombre et de lumière, dont le jeu changeait au moindre souffle de la brise. Ou bien il tombait d'aplomb sur des fougères dans lesquelles bourdonnait l'un des tas d'insectes. Bientôt, ils distinguèrent dans les arbres les ondulations du chant l'oiseau. Et là-bas, les toits des maisons qui tranchaient vigoureusement sur la verdure foncée des jardinets. Des vitres allumées par le soleil flamboyaient avec des lueurs aveuglantes d'incendie. « Tiens !» dit le commissaire de police, dont le regard, depuis quelques minutes, fouillait Meudon. « La mère Loriot est dans son jardin. Elle nous cherche. »« Peste, vous avez de bons yeux !» fit Valot en riant. La boucherie de Loriot était un peu en arrière de la ligne des maisons de la rue des Princes. Et en effet, auprès de l'abattoir, se tenait, les mains devant les yeux pour s'abriter du soleil, une grande femme, très mince, sèche comme un roseau. « Eh bien, et vos agents ?» dit Valot. « Oh, ils la guettent, je ne suis pas en peine. » Ils rentrèrent dans le pré dont la pente descendait vers le ruisseau. Les traces continuaient d'être distinctes sur les herbes. Ils traversèrent une seconde fois le petit pont. Une centaine de mètres maintenant les séparaient de la boucherie où les conduisait la traînée du cadavre, large sillon humide de sang. Le regard de Consola rencontra celui du docteur. « Vous voyez, dit-il, que je ne me trompais guère. Le cadavre est sorti de là. » Et il désignait la boucherie. Quelques minutes après, ils atteignaient le jardin attenant à la maison de Loriot. Une petite porte à claire-voie servait de clôture, mais elle était démantibulée et n'était plus retenue que par un gond. Consola jeta un dernier coup d'œil derrière lui. Dans le champ l'oiseau, les ouvriers du fermier Maduré avaient achevé leur charrette qui s'en allait lourdement, remontant jusqu'à la rue des Princes, en traçant des ornières profondes. La chaleur commençait à être étouffante. Dans le bleu pâle du ciel, des alouettes en droite ligne montaient, s'y perdaient, redescendaient brusquement, sans que jamais cessât la musique berceuse de leur gazouillis. « Entrons !» dit le commissaire. Il poussa la porte, la vieille n'était plus là. Elle avait quitté le coin de l'abattoir pour revenir dans la boutique. Un agent qui les vit accourut à leur rencontre. « Voilà ce que j'ai trouvé !» dit-il à Consola. Et il tendit au jeune homme une jarretière bleue, reprenant. « Va, quand je dis que c'est moi qui l'ai trouvé, je me trompe, c'est la vieille. Ouais, elle est sortie un moment. Je la suivais de l'œil. Elle resta d'abord immobile, puis tout à coup, voilà qu'elle se baisse et fourre dans sa poche quelque chose qu'elle venait de ramasser sous la haie. Je me précipite, je lui prends la main, la retire et ramène quoi ? Ben, ce que je viens de vous donner. » Et la vieille n'a rien dit. « Oh que si, elle n'était pas contente. Mais à droite comme un singe, elle a prétendu tout de suite que si elle a ramassé la jarretière, c'était pour nous la montrer. »« Mais au fait, c'est possible, » dit Valot. Le commissaire ne fit pas de réflexion et l'agent rentra, après avoir dit que la jarretière trouvée ressemblait à celle qui serrait encore le bas de Charlotte, et après avoir indiqué dans quel coin de la haie elle avait été ramassée. Le jardin était séparé par des plates-bandes d'œillets, de dahlias, de dents de lion et de narcisses. Une ceinture de buis soigneusement taillée entourait des massifs en haut desquels il y avait des rosiers. Des laitues et des choux se mêlaient à de grands lys, des pommes de terre à des pieds d'angélique, des groseilliers à des touffes de fenouil. Et de chaque côté de la porte étaient un laurier rose et un grenadier dans des caisses au soleil. Et sur la fenêtre qui donnait dans le petit cabinet de Nabot, 5 ou 6 pots de balsamine. À gauche s'allongeait un bâtiment très bas, entouré de fumier, sur le toit planchéier duquel se gonflaient des pelotes de mousse noire et dont les murs à l'extérieur étaient tapissés d'aristoloches aux fleurs encornées. Ils firent le tour du jardin, inspectant tout avec une attention extrême. Du reste, à chaque moment, des indices venaient donner raison aux soupçons de Consola. C'est ainsi qu'il trouva, dans une touffe de buis écrasée, une poignée de cheveux blonds. Des fleurs des plates-bandes avaient été saccagées. Les plus petites choses s'accordaient pour restreindre la recherche du crime à tout ce qui avoisinait la boucherie. Le commissaire revenait avec des feuilles de papier bourrées de notes. Il avait minutieusement relevé chacun des indices, comptant les pas, mesurant les traces, décidant le chemin parcouru par l'assassin pour conduire le cadavre de la boucherie au ruisseau, du ruisseau au bois, du bois au ruisseau, et du ruisseau à la meule. Maintenant, dit-il à Valot en pénétrant dans la boutique, la chose est simple comme bonjour. Un enfant se tirerait d'affaire. Vous allez voir.